Tandis que la gloire de la parfumerie, à son déclin, allait jeter ses derniers feux, un astre se levait faiblement à l'horizon commercial. Le petit Popinot posait à cette heure même les fondements de sa fortune, rue des Cinq Diamants. La rue des Cinq Diamants, petite rue étroite où les voitures chargées passent à grand-peine, donne rue des Lombards d'un bout et de l'autre rue Aubry-le-Boucher. En face, la rue Quincampoix, rue illustre du vieux Paris, où l'histoire de France en a tant illustré. Malgré ce désavantage, la réunion des marchands de droguerie la rend précieuse, et, sous ce rapport, Popinot n'avait pas mal choisi. Mais sa maison, la seconde du côté de la rue des Lombards, était si sombre que par certaines journées, il y fallait de la lumière en plein jour. Il avait pris possession, la veille au soir, des lieux les plus noirs et les plus dégoûtants. Son prédécesseur, marchand de mélasse et de sucre brut, avait laissé les stigmates de son commerce sur les murs, dans la cour et dans les magasins. Figurez-vous une grande et spacieuse boutique, à grosses portes ferrées, peintes en vert dragon, à longues bandes de fer apparentes, ornées de clous dont les têtes ressemblaient à des champignons, garnies de grilles treillissées en fil de fer renflées par en bas comme celles des anciens boulangers, enfin dallées en grandes pierres blanches, la plupart cassées, les murs jaunes et nus, comme ceux d'un corps de garde. Après venait une arrière-boutique et une cuisine éclairée sur la cour, enfin un second magasin en retour qui jadis devait avoir été une écurie. On montait, par un escalier intérieur pratiqué dans l'arrière-boutique, à deux chambres éclairées sur la rue, où Popinot comptait mettre sa caisse, son cabinet et ses livres. Au-dessus des magasins étaient trois chambres étroites adossées au mur mitoyen, ayant vue sur la cour et où il se proposait de demeurer. Trois chambres délabrées, qui n'avaient d'autre aspect que celui de la cour irrégulière, sombre, entourée de murailles, où l'humidité, par le temps le plus sec, leur donnait l'air d'être fraîchement badigeonnées. Une cour, entre les pavés de laquelle il se trouvait une crasse noire et puante, laissée par le séjour des mélasses et des sucres bruts. Une seule de ces chambres avait une cheminée. Toutes étaient sans papier, écarrelées en carreaux. Depuis le matin, Gaudissart et Popinot, aidés par un ouvrier colleur que le commis voyageur avait déniché, tendaient eux-mêmes un papier à 15 sous dans cette horrible chambre peinte à la colle par l'ouvrier. Un lit de collégien à couchette de bois rouge, une mauvaise table de nuit, une commode antique, une table, 2 fauteuils et 6 chaises donnés par le juge Popinot à son neveu, composaient l'ameublement. Gaudissart avait mis sur la cheminée un trumeau garni d'une méchante glace achetée d'occasion. Vers 8 heures du soir, assis devant la cheminée où brillait une falourde allumée, les deux amis allaient entamer le reste de leur déjeuner. « Arrière, le gigot froid! Ceci ne convient pas à une pendaison de crémaillère !» cria Gaudissart. « Mais, » dit Popinot en faisant sonner dans son gousset les 20 francs qu'il gardait pour payer le prospectus. « Je !» dit Gaudissart en mettant une pièce de 40 francs sur son œil. Un coup de marteau retentit alors dans la cour naturellement solitaire et sonore du dimanche, jour où les industriels se dissipent et abandonnent leur laboratoire. Voilà le fidèle de la rue de la Poterie. Moi, reprit l'illustre Gaudissart, j'ai, et non pas je. En effet, un garçon suivi de 2 marmitons apporta dans 3 mannes un dîner orné de 6 bouteilles de vin choisies avec discernement. Mais comment ferons-nous pour manger tant de choses, dit Popinot. Et l'homme de lettres, s'écria Gaudissart. Finot connaît les pompes et les vanités. Il va venir, enfant naïf, muni d'un prospectus ébouriffant. Le mot est joli, hein? Les prospectus ont toujours soif. Il faut arroser les graines si l'on veut des fleurs. Allez, esclave, dit-il au marmiton en se drapant. Voilà de l'or. Il leur donna 10 sous par un geste digne de Napoléon, son idole. Merci, monsieur Gaudissart, répondirent les marmitons, plus heureux de la plaisanterie que de l'argent. Toi, mon fils, dit-il au garçon qui restait pour servir, il est une portière, elle gît dans les profondeurs d'un antre où parfois elle cuisine, comme jadis Nausicaa faisait la lessive par pur délassement. Rends-toi près d'elle, implore sa candeur, intéresse-la, jeune homme, à la chaleur de ses plats. Dis-lui qu'elle sera bénie et surtout respectée, très respectée, par Félix Gaudissart, fils de Jean-François Gaudissart, petit-fils des Gaudissart, ville prolétaire fort ancien, ses aïeux. Marche et fais que tout soit bon, sinon je te flanque un ut majeur dans ton Saint-Luc. » Un autre coup de marteau retentit. « Voilà le spirituel endoche, » dit Gaudissart. un gros garçon assez joufflu, de taille moyenne et qui, des pieds à la tête, ressemblait au fils d'un chapelier, à traits ronds, où la finesse était ensevelie sous un air gourmet, se montra soudain. Sa figure, attristée comme celle d'un homme ennuyé de misère, prit une expression d'hilarité quand il vit la table mise et les bouteilles. Au cri de Gaudissart, son pâle œil bleu pétilla, sa grosse tête creusée par sa figure calmouque alla de droite à gauche, et il salua Popinot d'une manière étrange, sans servilité ni respect, comme un homme qui ne se sent pas à sa place et ne fait aucune concession. Il commençait alors à reconnaître en lui-même qu'il ne possédait aucun talent littéraire. Il pensait à rester dans la littérature en exploiteur, à y monter sur l'épaule des gens spirituels, à y faire des affaires au lieu d'y faire des œuvres mal payées. En ce moment, il avait épuisé l'humilité des démarches et l'humiliation des tentatives. Il allait, comme les gens de haute portée financière, se retourner et devenir impertinent par parti pris. Mais il lui fallait une première mise de fonds. Gaudissart la lui avait montrée à toucher dans la mise en scène de l'huile Popinot. « Vous traiterez pour son compte avec les journaux, mais ne le rouez pas, autrement nous aurions un duel à mort. Donnez-lui-en pour son argent. » Popinot regarda l'auteur d'un air inquiet. Les gens vraiment commerciaux considèrent un auteur avec un sentiment où il entre de la terreur, de la compassion et de la curiosité. Quoique Popinot eût été bien élevé, les habitudes de ses parents, leurs idées, les soins bétifiants d'une boutique et d'une caisse avaient modifié son intelligence en la pliant aux us et coutumes de sa profession, phénomène que l'on peut observer en remarquant les métamorphoses subies à 10 ans de distance par 100 camarades sortis à peu près semblables du collège ou de la pension. Andoche accepta ce saisissement comme une profonde admiration. « Eh bien, avant le dîner, coulons à fond le prospectus. Nous pourrons boire sans arrière-pensée, » dit Gaudissart. « Après le dîner, on lit mal. La langue aussi digère. »« Monsieur, » dit Popinot, « un prospectus est souvent toute une fortune. »« Et souvent, » dit Andoche, « la fortune n'est qu'un prospectus. »« Ah, très joli, » dit Gaudissart. « Ce farceur d'Andoche a de l'esprit comme les 40. »« Comme 100, » dit Popinot, stupéfait de cette idée. » L'impatient Gaudissart prit le manuscrit et lut à haute voix et avec emphase. « Huile céphalique !»« J'aimerais mieux huile césarienne, » dit Popinot. « Mon ami, » dit Gaudissart, « tu ne connais pas les gens de province. Il y a une opération chirurgicale qui porte ce nom-là, et ils sont si bêtes qu'ils croiraient ton huile propre à faciliter les accouchements. Et de là pour les ramener aux cheveux, il y aurait trop de tirage. » « Sans vouloir défendre mon mot, dit l'auteur, je vous ferai observer que huile céphalique veut dire huile pour la tête et résume vos idées. »« Voyons, dit Popinot impatient. » Voici le prospectus tel que le commerce le reçoit par milliers encore aujourd'hui. Nul cosmétique ne peut faire croître les cheveux, de même que nulle préparation chimique ne les atteint sans danger pour le siège de l'intelligence. La science a déclaré récemment que les cheveux étaient une substance morte et que nul agent ne peut les empêcher de tomber ni de blanchir. Pour prévenir la xérasie et la calvitie, il suffit de préserver le bulbe d'où ils sortent de toute influence extérieure atmosphérique et de maintenir à la tête la chaleur qui lui est propre. L'huile céphalique, basée sur ces principes établis par l'Académie des sciences, produit cet important résultat auxquels se tenaient les anciens, les romains, les grecs et les nations du nord, auxquelles la chevelure était précieuse. Des recherches savantes ont démontré que les nobles, qui se distinguaient autrefois à la longueur de leurs cheveux, n'employaient pas d'autres moyens. Seulement leur procédé, habilement retrouvé par A. Popinot, inventeur de l'huile céphalique, avait été perdu. Conserver au lieu de chercher à provoquer une stimulation impossible ou nuisible sur le derme qui contient les bulbes, telle est donc la destination de l'huile céphalique. En effet, cette huile, qui s'oppose à l'exfoliation des pellicules, qui exhale une odeur suave et qui, par les substances dont elle est composée, dans lesquelles entre comme principal élément l'essence de noisette, empêche toute action de l'air extérieur sur les têtes, prévient ainsi les rhumes, le coryza et toutes les affections douloureuses de l'encéphale en lui laissant sa température intérieure. De cette manière, les bulbes qui contiennent les liqueurs génératrices des cheveux ne sont jamais saisis ni par le froid ni par le chaud. La chevelure, ce produit magnifique, à laquelle hommes et femmes attachent tant de prix, conserve alors, jusque dans l'âge avancé de la personne qui se sert de l'huile céphalique, ce brillant, cette finesse, ce lustre qui rendent si charmantes les têtes des enfants. La manière de s'en servir est jointe à chaque flacon et lui sert d'enveloppe. Manière de se servir de l'huile céphalique. Il est tout à fait inutile d'oindre les cheveux. Ce n'est pas seulement un préjugé ridicule, mais encore une habitude gênante en ce sens que le cosmétique laisse partout sa trace. Il suffit tous les matins de tremper une petite éponge fine dans l'huile, de se faire écarter les cheveux avec le peigne, d'imbiber les cheveux à leurs racines de raie en raie, de manière à ce que la peau reçoive une légère couche après avoir préalablement nettoyé la tête avec la brosse et le peigne. Cette huile se vend par flacon, portant la signature de l'inventeur, pour empêcher toute contrefaçon, et du prix de 3 francs chez A. Popineau, rue des 5 Diamants, quartier des Lombards, à Paris. On est prié d'écrire Franco. Nota, la maison A. Popineau tient également les huiles de la droguerie, comme Néroli, huile d'aspic, huile d'amande douce, huile de cacao, huile de café, de ricin et autres. « Mon cher ami, dit l'illustre Gaudissart à Finot, c'est parfaitement écrit. Sacerlotte, comme nous abordons la haute science. Nous ne tortillons pas, nous allons droit au fait. Ah, je vous fais mes sincères compliments. Voilà de la littérature utile. » « Le beau prospectus, dit Popineau enthousiasmé. « Un prospectus dont le premier mot tue Macassar, dit Gaudissart en se levant d'un air magistral, pour prononcer les paroles suivantes qu'il scanda par des gestes parlementaires. On ne fait pas pousser les cheveux, on ne les teint pas sans danger. Ha ha ha, là est le succès. La science moderne est d'accord avec les habitudes des anciens. On peut s'entendre avec les vieux et avec les jeunes. Vous avez affaire à un vieillard. Ha ha, monsieur, les anciens, les grecs, les romains avaient raison et ne sont pas aussi bêtes qu'on veut le faire croire. Vous traitez avec un jeune homme. Mon cher garçon, encore une découverte due au progrès des lumières, nous progressons. Que ne doit-on pas attendre de la vapeur, des télégraphes et autres? Cette huile est le résultat d'un rapport de Monsieur Vauquelin. Si nous imprimions un passage du mémoire de Monsieur Vauquelin à l'Académie des sciences, confirmant nos assertions, hein, fameux? Allons, Finot, à table, chiquons les légumes, sablons le champagne au succès de notre jeune ami. « J'ai pensé, dit l'auteur modestement, que l'époque du prospectus léger et badin était passée. Nous entrons dans la période de la science. Il faut un air doctoral, un ton d'autorité pour s'imposer au public. Nous chaufferons cette huile-là, les pieds me démangent et la langue aussi. J'ai les commissions de tous ceux qui font dans les cheveux. Aucun ne donne plus de 30%. Il faut lâcher 40% de remise. Je réponds de 100 000 bouteilles en 6 mois. » J'attaquerai les pharmaciens, les épiciers, les coiffeurs, et en leur donnant 40%, tous enfarineront leur public. Les 3 jeunes gens mangeaient comme des lions, buvaient comme des Suisses et se grisaient du futur succès de l'huile céphalique. « Cette huile porte à la tête, » dit Finot en souriant. Gaudissart épuisa les différentes séries de calembours sur les mots huile, cheveux, tête, etc. Au milieu des rires homériques des 3 amis, au dessert, malgré les toasts et les souhaits de bonheur réciproques, un coup de marteau retentit et fut entendu. « C'est mon oncle. Il est capable de venir me voir, » s'écria Popineau. « Un oncle, » dit Finot, « et nous n'avons pas de verre. »« L'oncle de mon ami Popineau est un juge d'instruction, » dit Gaudissart à Finot. « Il ne s'agit pas de le mystifier. Il m'a sauvé la vie. Ah, quand on s'est trouvé dans la passe où j'étais, en face de l'échafaud, ou « quick et adieu les cheveux », fit-il en imitant le fatal couteau par un geste, on se souvient du vertueux magistrat auquel on doit d'avoir conservé la rigole par où passe le vin de champagne. On s'en souvient ivre mort. Vous ne savez pas, Finot, si vous n'aurez pas besoin de Monsieur Popineau. Sacerlotte, il faut des saluts et des 6 à la livre encore. » Le vertueux juge d'instruction demandait en effet son neveu à la portière. En reconnaissant la voix, Anselme descendit, un chandelier à la main pour éclairer. « Je vous salue, messieurs, » dit le magistrat. L'illustre Gaudissart s'inclina profondément. Finot examina le juge d'un œil ivre et le trouva passablement ganache. « Il n'y a pas de luxe, » dit gravement le juge en regardant la chambre. « Mais, mon enfant, pour être quelque chose de grand, il faut savoir commencer par n'être rien. »« Quel homme profond !» dit Gaudissart à Finot. « Une pensée d'article, » dit le journaliste. « Ah, vous voilà, monsieur, » dit le juge en reconnaissant le commis voyageur. « Et que faites-vous ici ?» « Monsieur, je veux contribuer de tous mes petits moyens à la fortune de votre cher neveu. Nous venons de méditer sur le prospectus de son huile, et vous voyez en monsieur l'auteur de ce prospectus qui nous paraît un des plus beaux morceaux de cette littérature de perruque. » Le juge regarda Finot. « Monsieur dit Gaudissart est monsieur Andoche Finot, un des jeunes hommes les plus distingués de la littérature, qui fait dans les journaux du gouvernement la haute politique et les petits théâtres, un ministre en chemin d'être auteur. » Finot tirait Gaudissart par le pan de sa redingote. « Bien, mes enfants, dit le juge, à qui ces paroles expliquèrent l'aspect de la table où se voyaient les restes d'un régal bien excusable. « Mon ami, dit le juge à Popinot, habille-toi, nous irons ce soir chez monsieur Birotteau. Je lui dois une visite. Vous signerez votre acte de société que j'ai soigneusement examiné. Comme vous aurez la fabrique de votre huile dans les terrains du faubourg du Temple, je pense qu'il doit te faire bail de l'atelier. » Il peut avoir des représentants, les choses bien en règle évitent des discussions. Ces murs me paraissent humides, Anselme. Élève des nattes de paille à l'endroit de ton lit. Permettez, monsieur le juge d'instruction, dit Gaudissart avec la patelinerie d'un courtisan. Nous avons collé nous-mêmes les papiers aujourd'hui et ils ne sont pas secs. De l'économie, bien, dit le juge. Écoutez, dit Gaudissart à l'oreille de Finot. Mon ami Popinot est un jeune homme vertueux. Il va chez son oncle. Allons achever la soirée chez ma tante. Le journaliste montra la doublure de la poche de son gilet. Popinot vit le geste, il glissa 20 francs à l'auteur de son prospectus. Le juge avait un fiacre au bout de la rue, il emmena son neveu chez Birotteau. Pillerault, monsieur et madame Ragon, Roguin, faisaient un boston, et Césarine brodait un fichu, quand le juge Popinot et Anselme se montrèrent. Roguin, le vis-à-vis de madame Ragon, auprès de laquelle se tenait Césarine, remarqua le plaisir de la jeune fille quand elle vit entrer Anselme, et par un signe, il la montra rouge comme une grenade à son premier clerc. « Ce sera donc la journée aux actes, » dit le parfumeur, quand après les salutations, le juge lui eut dit le motif de sa visite. César, Anselme et le juge allèrent au second dans la chambre provisoire du parfumeur discuter le bail et l'acte de société dressé par le magistrat. Le bail fut consenti pour 18 années, afin de le faire concorder à celui de la rue des 5 Diamants, circonstance minime en apparence, mais qui plus tard servit les intérêts de Birotteau. Quand César et le juge revinrent à l'entresol, le magistrat, étonné du bouleversement général et de la présence des ouvriers un dimanche chez un homme aussi religieux que le parfumeur, en demanda la cause et le parfumeur l'attendait là. « Quoique vous ne soyez pas mondain, monsieur, vous ne trouverez pas mauvais que nous célébrions la délivrance du territoire. Ce n'est pas tout. « Si je réunis quelques amis, c'est aussi pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. »« Ah !» fit le juge, qui n'était pas décoré. « Peut-être me suis-je rendu digne de cette insigne et royale faveur, en siégeant au tribunal, au consulaire, et en combattant pour les Bourbons sur les marches. »« Oui, dit le juge, de Saint-Roch, aux 13 Vendémiaires, où je fus blessé par Napoléon. »« Volontiers, dit le juge, si ma femme n'est pas souffrante, je l'amènerai. » « Xandrot, dit Roguin sur le pas de la porte à son clerc, ne pense en aucune manière à épouser Césarine, et dans 6 semaines, tu verras que je t'ai donné un bon conseil. « Pourquoi ? Dit Crottat. « Birotteau, mon cher, va dépenser 100 000 francs pour son bal. Il engage sa fortune dans cette affaire des terrains, malgré mes conseils. Dans 6 semaines, ces gens-là n'auront pas de pain. Épouse mademoiselle Lourdois, la fille du peintre en bâtiment. » Elle a 300 000 francs de dot, je t'ai ménagé ce pis-aller. Si tu me comptes seulement 100 000 francs en achetant ma charge, tu peux l'avoir demain. »